48 FM.
Les Street John au couloir en numéro 2. Allez, les Street, c'est parti pour les Street John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquez. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du top 10 apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Allez Louis,
allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme, bravo.
On est nous tout seul.
Et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 18e magazine d'Instant Sport, votre émission d'actualité sportive qui décrypte, vous en avez l'habitude, les résultats sportifs lozériens, mais également nationaux et internationaux. Nos trois chroniqueurs spécialistes du sport lozérien et du sport international sont bien présents. Alors après quelques semaines, dues au pitoyable résultat de l'Olympique de Marseille, il ne voulait pas venir se faire ridiculiser dans l'émission, mais il est de retour. Patrick Bianconne, bonjour.
Alors première erreur de ta part, je ne pense pas que ce soit le 18e.
Si, c'est le 18e, parce que je me suis trompé la semaine dernière et j'ai dit 15e, en fait c'était le 17e.
Et je crois pas, parce que je pense que aujourd'hui c'est ma 15e émission, donc comme j'en ai raté deux, je pense que c'est le 17e.
Allez,
faire des recherches.
Faudra vérifier.
La semaine dernière c'était la 13e, donc bon, bah.
On va vérifier, mais je
tu devrais plus l'annoncer, ça d'ailleurs.
Ouais, je vais plus
l'annoncer. Mais bonjour à toutes et à tous, bien évidemment.
Alors, Zoom, Travelling, Plan Séquence, c'est le Stanley Kubrick de l'AFL, Laurent Julien, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors hier, tu as réussi à filmer avec une main, tenir une bière dans l'autre. Tu sais que même Spielberg, il n'y arrive pas. Hein.
C'est un petit Spielberg.
Et, ouais. Et on va aussi parler de cette énorme lucarne à Aumont-Aubrac. On en parlera tout à l'heure. Tu nous...
Ouais, je vous mimerai l'action.
Voilà, exactement.
Que celle-là d'action, parce que celle où j'imite Jason Statham dans le transporteur, je ne pourrais pas le faire ici.
Alors, on va rester, on en parlera, tiens, de ça aussi, de tes actions défensives.
Ah, mais c'est le sosie officiel de Statham, tu le sais.
Non, Bruce Willis.
Un mix entre Jason Statham et Bruce Willis. Bruce Statham.
Bruce Statham, on va l'appeler. C'est ça, allez, on reste aux États-Unis après Spielberg. C'est le Derek Fisher du championnat régional de basket féminin, sauf qu'il ne pourra pas bénéficier du premier tour de la draft l'an prochain. Luc Crespon, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, actualité oblige, nous avons un invité pour nous aider à débriefer le match au sommet d'hier qui a opposé l'AFL au leader invaincu Paulan Pézenas. Alors il va d'autant plus nous aider qu'il était hier sur le terrain. Nabil Zanina, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors on va parler de ça, je ne sais pas si le micro marche, on a toujours des problèmes avec ce micro, c'est pas possible, ça doit marcher. On va parler, comme d'habitude, en fin d'émission 1, toujours décrypter l'actualité de l'AFL. Alors c'était un match important, une victoire impérative, et ça a été le cas. Mais on va commencer à parler de défaite. Donc Laurent, on va parler de quel sport ?
Du basket.
Merci Patrick, on va parler du basket, absolument. Alors les filles, tout d'abord, se déplaçaient à Uzès samedi soir pour aller défier les leaders sans trois de leurs titulaires. La tâche s'annonçait difficile et ça a été le cas, car deux joueuses en plus se sont blessées dans les premières minutes de jeu et devaient continuer la partie diminuée. Au final, défaite 39-64. Non mais Luc, c'est un sketch cette équipe, c'est pas possible quoi. Vous allez à 6, il y en a deux qui se blessent d'entrée.
Non, alors on n'était pas 6, on était 8 sur ce match-là. Et deux joueuses qui sont blessées et qui ont fini sur une jambe, mais qui ont quand même fini le match.
Ouais, mais bon, ça n'a pas donné les résultats escomptés.
Non, mais bon, on s'y attendait un peu, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un match très difficile. C'est contre le leader qui a perdu un seul match. Au complet, on avait perdu à domicile contre elle avec un match qui avait été très, très compliqué et avec beaucoup de points. Là, il manquait les deux meilleures scoreuses de l'équipe, donc du coup, c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué en attaque.
Ça sent le roussi là, hein, pour le maintien.
Oui. Oui.
On peut dire que c'est fini.
On peut jamais dire que c'est fini parce qu'il reste encore, l'année dernière, il y avait eu un barrage pour le maintien, donc entre les deux avant-derniers des deux poules, donc voilà. Mais on va viser la victoire dans les deux derniers matchs qui restent, puisqu'il reste encore deux matchs pour les filles.
Ok, les garçons peuvent avoir des regrets. À Lunel, ils perdent de justesse au final d'un panier à 3 points.
Ouais, ils y perdent.
63-60.
Ouais, ils perdent de justesse.
Est-ce qu'ils avaient le ballon de l'égalisation?
Ouais, je crois qu'ils ont eu le ballon pour revenir. Ils ont surtout eu un petit trou. Ils ont pris 10 points d'écart en milieu de troisième quart-temps. Et après ils sont bien revenus, ils ont fait un bon match et surtout ils ont fait un super match offensif parce que 60 points, je pense que ça faisait quelques matchs qu'on n'avait pas marqué autant, notamment de la réussite à 3 points.
S'il y avait eu un match nul, il y aurait eu.
Il y a pas de match nul, il y a prolongation.
Il y a prolongation.
Ça nous est arrivé avec les filles cette saison, il y a une prolongation de 5 minutes. Si à la fin de la prolongation, il y a encore match nul, il y a une deuxième prolongation, et une troisième prolongation, et je crois qu'après, ça se joue au lancer franc.
Et les pénaux,
c'est la loose. Ouais.
Je crois qu'il n'y a pas de match nul au basket.
Non, mais te fais pas débile, Ludo. Les deux équipes sont repêchées, il n'y a pas de problème. Sois confiant.
Oui, mais je pense aussi, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose au final, hein, parce que perdre toute l'année à gagner un seul match parce que l'adversaire ne s'est pas déplacé, c'est un peu compliqué.
Bah non, parce que il y a 4 ans, quand le club a repris un championnat fédéral après 2 ans, 2 saisons sans jouer en fédé, c'était un département, on a perdu tous nos matchs de la saison, on a peut-être gagné un. 2 ans plus tard, on avait perdu 2 matchs dans la saison et gagné tout le reste. Donc, il y a un écart qui est assez important entre la division où on était l'année dernière et celle où on joue cette année, puisqu'on a été repêché. On a été invité à participer à ce championnat régional. Je pense que l'année prochaine, tout ce que cette équipe est en train de vivre là cette année, ça peut lui servir. Et je pense que l'année prochaine, il y a moyen. Alors, je dis pas qu'on va jouer qu'ils vont jouer les playoffs dès l'année prochaine, mais je pense que l'équipe apprend très très vite. Et la preuve, cette défaite là. Montre qu'on progresse vachement.
Ouais, et d'une année sur l'autre aussi, entre les recrues, les départs, ça peut.
Après,
ça peut
voilà, c'est toujours, évoluer, c'est toujours le problème. C'est toujours ça. Ça va être le même problème chez les filles.
Oui. Nabil, tu suis le basket un peu ou pas?
Non, j'ai pas été une fois encore voir le basket. J'ai été voir le hand, rugby, volley, mais pas.
Faut se dépêcher parce qu'il y a un match des garçons le 11 avril, le match des filles le 24 avril, et après c'est fini. Hein. Fini la saison.
Ouais. D'ailleurs, c'est contre la SPTT, hein. On a dit
c'est
qu'on
ça.
Y allait, hein,
vous avez dit
que
vous
oui,
veniez,
c'est quand
hein. C'est le 11 avril.
Ah ben c'est bon, c'est noté.
C'est noté, on y sera. Patrick, tu viendras avec nous?
Ouais, pourquoi pas. Hein.
Allez. Si vous voulez venir voir le match des filles le 24 dans la foulée.
Ouais, on aimerait bien te voir coacher un peu, là, t'énerver sur le banc, balancer ton crayon par terre.
D'un calme olympien. Je peux pas, je prends une phase technique quand je fais ça.
Et oui, c'est vrai. Volleyball, après la belle opération d'il y a 2 semaines, le MVL retombe dans ses travers et perd à Villefranche sur Saône 3-7-0 chez le dernier qui n'avait qu'un seul point. Du coup, Mende redevient relégable au classement. On va donner vite fait le classement avec Paris en tête, 21 points, Grenoble 20 points, Mérignac 18, Caudry 16, Charenton 16, Mende 6e 13 points, Brive 12 points et Villefranche qui a 4 points. Donc Patrick, c'est une surprise quand même.
Une très mauvaise surprise, une douche froide, une douche écossaise, enfin, tu l'appelles comme tu veux, mais bon, c'est vrai que c'est totalement incompréhensible. Quand tu vois cette équipe de Villefranche, bon, qui certes l'année dernière a fini devant Mende, puisqu'il faut pas oublier que dans cette poule de N2, c'est Villefranche qui a fini premier, Mende n'était que second, et Mende n'a dû s'en monter qu'au fait que la réserve de Beauvais n'a pas voulu évoluer dans ce championnat, donc ils ont été repêchés, sinon ils seraient N2. Donc Villefranche l'année dernière était devant Mende, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il y a pas photo entre les résultats des Mendois par rapport à cette équipe de Villefranche. Bon, voilà, un point, aucune victoire, hein, tu fais un déplacement là-bas, tu espères que tu vas prendre 3 points, donc qui t'aurait permis justement de rester au contact des autres. Et puis là, voilà, tu perds 3-0, sèchement, après un match assez pitoyable. Donc c'est une très mauvaise surprise, ça compromet largement les chances de se maintenir.
Oui, Luc.
Ouais, d'autant plus que, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que les adversaires, eux, ont gagné 3-1 ou 3-0, je sais plus.
Notamment Charenton,
et ce qui fait que le MVL, du coup, à 3 points, alors ils auraient ramené ne serait-ce qu'un point de ce déplacement en perdant 3-2, même une victoire, je suis pas certain que ça suffise à leur bonheur. Il faut vraiment qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison pour être
tranquille. Ouais, c'est possible. Hein.
Ouais, c'est possible. Bon, il y a un match capital là cette semaine, ce week-end, avec un déplacement à Caudry. On rappelle que Caudry, c'est à côté de Valenciennes, donc il faut traverser quasiment toute la France. Donc un déplacement. Mais ce qui fait râler avec cette équipe, c'est que elle est vraiment trop irrégulière. Hein. Bon, elle fait des matchs. Bon, Nabil le disait là avant qu'on passe à l'antenne, hein, ils font de super matchs contre des équipes, c'est vrai, de haut de tableau où ils sont pas favoris, où on a peur qu'ils prennent cher, puis finalement ils gagnent, en particulier contre Charenton. Et puis après tu as contre des équipes Mérignac aussi, tu aurais pu être en play-off, ben tu chutes inexplicablement. Et puis là, ce week-end pareil contre Villefranche, c'est ça qui est vraiment très très incompréhensible et ça fait vraiment râler. Et bon, c'est vrai que pour les dirigeants, ils sont désorientés parce que tu sais jamais trop d'une semaine à l'autre ce qui va se passer. Des joueurs, il y a vraiment un écart de niveau impressionnant entre un week-end et l'autre par rapport à des joueurs. Bon, moi, je me souviens par exemple contre Caudry, le Croate Mario Tepert, il a été vraiment inexistant. Et puis le week-end d'après contre Charenton, il fait un match fabuleux. Donc c'est complètement compréhensible que des joueurs de ce niveau, qui ont 10, au moins 10 ans de quasiment de professionnalisme, et bien voilà, il y a autant d'irrégularités, c'est ça qui est dommage.
C'est ce qui leur coûte finalement de se retrouver dans cette position, parce que la première phase, ils ont gagné contre Fréjus, ils ont gagné contre les meilleures équipes, et puis finalement, effectivement, perdre contre Mérignac, ouais, c'est dommage, parce que du coup, ils se mettent un peu en difficulté tout seuls, là.
Ils ont perdu contre Brive aussi, lors de la première phrase. Bon, c'était aussi une surprise parce qu'on voit que Brive
est septième.
Voilà, donc tout ça pèse lourd en fin de saison. Bon, alors tout est encore possible, tu l'as dit, mais bon, c'est vrai que ça fait râler de perdre 3-0 à Villefranche. Bon, voilà, Villefranche, ils sont à 1-2 déjà, on le sait, quoi. Enfin, ils le savent.
Hein. Oui.
C'est ça qui est surprenant.
Allez, deux bonnes nouvelles concernant le volley. Déjà, la réserve, après sa victoire à Narbonne 3-7-1, a assuré son maintien en pré-national, donc c'est déjà une bonne chose. Et les filles qu'on suit, qui continuent de gagner, cette fois-ci, c'était contre Gignac, 3-7-0. Ça va, Laurent, tu te sens bien?
Alors, il faut résumer Laurent. Gignac, André Prière, tu parles ou...
Gignac Big Mac, non, pas du tout.
Bravo aux filles, alors, du coup.
Bravo aux filles, on les suit. En plus, elles étaient troisième, elles jouaient contre le quatrième. Ou elles étaient quatrième, elles jouaient contre le troisième Gignac. Donc, voilà, elles continuent leur remontée. Et il faut espérer qu'elles poursuivent comme ça pour espérer monter en catégorie supérieure. Rugby, bon, mais c'est fini, hein, le championnat.
Oui,
le RCML qui termine à la dernière place. Handball, par contre, une mauvaise opération également, décidément, hein, on va attendre le foot pour avoir des victoires. Une mauvaise opération pour Mende qui perd à Voiron 23-18. En plus, Meilan s'impose 28-26 contre Bourgoin. Au classement, on va partir de la fin. On rappelle, normalement, c'est les trois derniers qui descendent. Mende était revenu à l'avant-dernière, avant-avant-dernière place.
La dixième.
Et redescend à la 11e place. Courpierre, dernier, 24 points. Mende, avant-dernier, 29. Meilan, 10e, 29. Donc à égalité de points. Couronnon 9e avec 35 points, donc ça, il y a déjà 6 points de retard. Fontaine 35 points également. Bourgoin-Jallieu, je m'arrête là, 36 points. Ouais, ça va être compliqué. Luc, qu'est-ce qu'il y a?
Là, d'autant qu'ils étaient en tête à la mi-temps. Les Mandois, ils menaient d'un but à la mi-temps.
Ouais, et, 13-12 à la mi-temps.
Ouais, 13-12 et ils ont lâché un petit peu. Ils ont lâché sur le dernier quart de la partie. Pour se retrouver un peu largué au score, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir, un peu comme le volley, je pense qu'ils ont guère d'autres choix que de gagner les 4 derniers matchs de la saison.
Ouais. Ouais, il faut déjà, le premier objectif, c'est de finir 10e au cas où il y a un repêchage. On ne sait jamais. Bon,
oui, sûr.
Au moins 10e. Après, il faut rattraper 5 points sur. Sur Firmini, sur Cournon.
6
points sur Cournon. Ce qui paraît compliqué. Quoi.
Voilà, c'est encore plus compliqué parce que quand tu perds, tu marques quand même un point. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 victoires d'écart avec ceux qui sont devant. Donc, voilà, moi je pense que maintenant il faut viser cette 10e place pour espérer être repêché. L'objectif maintenant, je pense que c'est celui-là. Et c'est possible parce qu'il y a tout un tas de matchs maintenant avec des équipes qui sont plutôt de leur niveau. Que du haut de tableau, donc je pense d'ailleurs qu'il y aura un match contre Mélan d'ici la fin, la fin de l'année.
Oui. Ouais, parce que Voiron était quatrième au classement, faut le rappeler, c'est pas non plus, pas non plus des brels.
Après, on peut peut-être se poser la question, on se rend compte que toutes les équipes lausériennes qui ont été repêchées cette année ont énormément de mal pour assurer leur maintien. On l'a vu avec le rugby. Le Hand était repêché, non? Le Hand n'était pas premier, parce que Terran n'a pas voulu monter.
Oui,
d'accord, oui, donc c'est repêchage.
Ils étaient deuxième de leur championnat, ouais. Et Terran n'ayant pas voulu monter, même s'ils ont été prévenus, même s'ils le savaient depuis quelque temps.
Nabil, si tu avais dû faire autre chose que du foot, tu te serais tourné vers quel sport?
Plus le Hand.
Plus le Hand?
Ouais.
Ouais, comme Laurent.
Ouais.
Laurent, tu as eu. C'est quoi? En fait, c'est le même principe que le foot, hein, ce jeu de ballon, ces contacts qui existent. C'est ça qui t'attire?
Le Hand aussi, c'est le deuxième sport en Tunisie aussi. En Tunisie, on a une très grosse équipe au Hand. Donc, c'est plus ça que.
Ok, avec beaucoup d'internationaux qui sont venus à Montpellier durant toutes ces années.
Et
le sélectionneur de l'équipe fille française, ça a été pendant l'entraîneur de la Tunisie.
Alain Porte qui était le coach de Nîmes et qui était parti s'occuper de l'équipe.
Ils vont reprendre un Tunisien.
Mais en basket, ils sont pas mal aussi, la Tunisie, Luc, non?
Ouais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. C'est pas le sport numéro un, mais ils ont de bons résultats en Coupe d'Afrique. De basket.
Toi, Laurent, au lieu de dire des bêtises,
moi, t'as une informatrice. Ce que j'aime bien, Wand, tu me l'as pas demandé.
C'est la buvette.
Non, c'est la. C'est le ballon qui est plus petit. Non, c'est pas ça. C'est l'intensité, en fait, que j'aime regarder, parce que jouer, j'ai jamais joué. Mais il se passe toujours quelque chose, en fait. Donc, c'est pas comme au foot où il y a des périodes creuses. Au milieu de terrain, tu peux.
C'est vrai que les sports de salle en général,
alors que le hand, il y a toujours quelque chose, quoi.
C'est un peu le même qu'au basket finalement.
Ouais, peut-être au basket aussi. Mmh. Au basket, il n'y a pas de contact, c'est pour ça.
Écoute, on verra. Ouais. Viens le 11 avril.
Au basket, tu rentres dans un joueur, ça fait faute, quoi.
Viens le 11 avril, tu verras.
Moi, j'étais ton avis et j'ai vu certains matchs où en fait, c'est physique quand même. D'ailleurs, tu vois, en NBA, tous ceux qui marchent, ils font 150 kilos de muscles, c'est pas pour rien, sinon ils en feraient 30. Ah, Luc nous montre un bleu, voilà, je dis pour nos auditeurs.
Oui.
C'est bien. Et en coach, tu t'es blessé avec la feuille de match?
Non, à l'entraînement.
À l'entraînement. Marie Elmeras, notre chère amie des féminines, t'a-t-elle parlé de leur match de ce week-end?
Oui, juste un petit mot pour me dire qu'elles ont perdu 25-18 contre le MUC.
Le MUC 1.
Donc voilà, elles ont fait une très bonne première mi-temps où elles ont fait jeu égal et puis un deuxième, le MUC a un petit peu accéléré et courte défaite, 25-18 contre le MUC, c'est pas déshonorant non plus.
À l'extérieur ou à domicile?
Voilà, c'était une bonne question, Ludo. Merci.
Marie, si tu nous écoutes, on attend des précisions. Allez, on passe au foot. Une très bonne opération vue de la montée pour l'ENL qui gagne chez la réserve du Clermont Foot. 1-0 et conforte sa place de leader. Donc un but de Brunel à la 3e minute. À noter que le goal adverse a pris un rouge à l'heure de jeu. Alors j'ai une petite question. Savez-vous quel est le
comme
nom...
Comme Guillaume Julien aussi.
Voilà. Savez-vous quel est le nom du goal de la réserve du Clermont Foot? Eh bien, c'est Julien. C'est pour ça qu'il a pris un rouge. Tous les Juliens en foot sont assez.
Je crois que même c'est l'équipe 3 de Clermont.
Oui, c'est l'équipe 3. Ouais, tu as raison. Patrick.
Marie nous écoute. Donc c'était à domicile.
C'était à domicile. Ouais. Merci Marie.
Merci.
Merci. Quelqu'un a eu des échos de ce match de l'ENL, Patrick, Luc?
Je crois que Clermont quand même était bien classé. Donc c'était un peu quand même un match important en vue de cette montée, de ce retour en DH. Je crois que le NL maintenant est sur une voie vraiment royale. Bien sûr, il reste encore pas mal de matchs, mais moi je suis très confiant sur le retour de l'ENL en DH l'année prochaine. Il faut une saison quand même assez impressionnante. Il y a des joueurs, des individualités. Bon, tu parlais de Guillaume Juillet, bon, il y a Régis aussi, bon, il y a Brunel, celui qui a marqué là. Donc ils ont vraiment une belle équipe, un coach qui a su fédérer les joueurs et repartir sur une dynamique. Donc l'ENL en DH l'année prochaine, à mon avis, c'est quasiment fait.
Ils ont un petit matelas, même si le troisième qui a un match de retard.
Alors pour l'instant, ils ont 8 points d'avance sur le deuxième qui est Land. Et le troisième
qui a gagné 8 à 1, d'ailleurs.
9 points d'écart avec un match de moins.
Ouais. C'est pour Neuchâtel qui a un point de retard. 9 points, un match de retard. Ce qui ferait, même s'ils gagnent, ils auront quand même 5 points d'avance.
Donc surtout, prochain match ils reçoivent la Vallée de l'Autre qui est un adversaire largement
à leur portée. Surtout j'ai l'impression qu'ils sont très très sérieux cette saison l'ENL. Ils ont vraiment négligé aucun match et pour s'éviter toute mauvaise surprise et je pense qu'il faudrait vraiment un cataclysme pour que pour qu'ils ne montent pas. Il va falloir être sérieux jusqu'au bout, parce que le championnat est encore long. Mais ouais, ils sont bien partis, je pense.
Ouais, bravo à cette équipe, on les suit. Ouais. On se posait la question en début de saison, est-ce qu'ils arriveraient à remonter, et ça paraît bien parti. Marvejol a affronté Salindre, alors j'ai pas eu le résultat.
Victoire 3-1 de Marvejol.
Bien. Et Salindre qui a fini à 9, notamment leur gardien qui s'est fait expulser.
Comme la FL.
Et puis un autre joueur qui s'est fait expulser en toute fin de match. Ils menaient déjà 2-1 quand le gardien s'est fait expulser. Donc.
Ouais, donc Marvejol qui est 4e au classement avec 4 points de retard sur le premier et 6 points d'avance sur le 10e.
C'est 4 points la victoire, 1 point la défaite. Comme,
ouais, c'est ça. Ce championnat de PHA est quand même terrible.
Quand est-ce qu'il joue contre la réserve de Nîmes
La réserve de Nîmes.
En coupe.
Oui. Coupe Garloser.
C'est pas fixé parce que. Il y a des problèmes de calendrier puisque Nîmes c'est la CFA2, donc bien sûr le championnat de CFA2 est prioritaire sur Coupe Garloser.
C'est nouveau ça.
Je comprends pas.
Eh oui, c'est comme ça. D'accord, mais on va suivre Marvejol. Allez, on va passer à.
On n'a pas parlé de l'équipe réserve de l'AFL qui.
On allait y passer. Tout de suite d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Donc match au sommet pour l'équipe 3 de l'AFL d'abord.
Non, l'équipe 2.
Non, c'est l'équipe 3 qui m'intéresse. Ah. Match au sommet de l'équipe 3 de l'AFL à Oumont au Brac. Oui, match tendu, beaucoup de supporters. Alors,
avec 15 000 personnes,
15 000
stades,
personnes au stade Alain Astruc.
Les tribunes étaient pleines.
La vaillante aumônaise avait fait le plein.
Donc victoire de l'AFL 3-1. Laurent, comment s'est passé le match? Ça allait?
Ça a été un match de haut de tableau. Alors, du coup, je veux dire, il y avait un petit peu d'engagement, ce qui était prévu, de toute façon.
Donc, si vous connaissez Laurent, un petit peu d'engagement, c'est-à-dire que c'est à peu près taclé au niveau des oreilles.
Voilà. Non, mais de
côté. T'as pas pris de carton?
J'en ai pris un.
Un jaune.
Un carton.
Ça va.
Mais c'était quand même bon esprit. Le public a encouragé ses couleurs, les couleurs de. D'Aumont, bien sûr, et puis on a gagné 3-1 parce que on a été meilleur, surtout en première mi-temps où on arrive à la mi-temps avec 2-0.
Ton but est intervenu quand?
Vers la 35e, par là.
C'était le deuxième but,
le deuxième but.
Raconte-nous ce but.
Il est modeste. Tu vois le coup franc de Roberto Carlos là contre le Brésil.
Ouais, c'était ça.
C'était pas ça, non.
Contre
la France, plutôt. C'était un coup franc un peu loin. Le goal a peut-être mal jugé le ballon. Et il a fini dans la lucarne, tout simplement.
C'était voulu ou c'était un centre?
Non, c'était voulu.
Non, c'était un centre.
Non. J'avais déjà centré avant. Là, je dis cette fois-ci.
Je tire. 35 mètres?
Ouais, à peu près. Non, mais c'est pas. On est arrivé à la mi-temps avec 2-0, 2 buts d'avance. Et puis on avait quand même tapé 3 fois la barre. Donc on était bien. Et puis deuxième mi-temps, par contre, ils ont bien poussé. On a fait que défendre tout le match, et puis on a gagné.
D'où le carton.
Première mi-temps.
Voilà. Non, mais c'est bien, vous filez vers le titre.
On a 6 points d'avance, mais bon, on a encore quelques matchs, bons petits matchs à jouer, notamment Valdo, Massogro, à Châteauneuf aussi, donc c'est pas gagné encore.
Alors, deux résultats de la DHR, d'abord en coupe qui jouait contre Châteauneuf. Nos amis de Châteauneuf, alors je tiens à dire qu'on avait lancé un appel la semaine dernière pour savoir si, on sait qu'on est écouté du côté du club de Châteauneuf, si quelqu'un voulait venir, et j'ai reçu cet appel. Donc lundi prochain c'est férié, il y aura pas d'instant sport. Dans 2 semaines, on recevra l'équipe de Châteauneuf, enfin des joueurs, Flo, pour venir parler un peu de cette équipe, de ce championnat. Donc en coupe, la réserve de l'AFL qui gagne 2-0, et là en championnat, c'est le contraire, on perd 2-0 à Montpellier, c'est ça Laurent?
Non, 1-0 à Montpellier.
1-0 à Montpellier.
But à la 8e.
Voilà, donc l'équipe s'est bien défendue, mais c'était l'équipe de Montpellier Atlas qui était juste au classement une place au-dessus, donc ça aurait été bien de pas perdre déjà, voire de gagner, et donc ça n'a pas été le cas. L'équipe était un petit peu diminuée parce que suite à ce match de Coupe Lozère que tu parles vendredi soir à Châteauneuf, 3 joueurs se sont blessés, donc pas des moindres, Flo Baudin, Benjamin Almeras et Max Tessier. Donc du coup il a fallu composer un peu à la dernière minute pour cette équipe réserve pour aller à Montpellier.
Tessier jouait pas avec la première?
C'est pas dommage de ne pas avoir un peu protégé les joueurs de la DHR, sachant qu'il y avait ce match qui était quand même un peu important.
Ouais, mais il y avait match au sommet de l'équipe 3.
C'est sûr qu'après coup, on peut se dire que c'est dommage. Ouais.
Non,
c'est
vrai.
Parce que ton coup franc, tu l'aurais marqué aussi contre Montpellier-Atlas, c'était pareil. Quoi, ouais.
Mais c'est que partie remise. Ouais. Non, mais c'est vrai que peut-être que...
Bon, là, ça sent le
Russie, gestion de l'équipe. Alors, c'est très compliqué depuis quelques semaines de monter une équipe potable. Bon, le coach a certainement voulu assurer au moins pour la Coupe Lozère. Ça passe en Coupe, mais voilà.
Nabil, toi qui t'entraînes avec eux, tu les sens comment, l'équipe de DHR?
Bon, en fait, maintenant, il y a deux groupes.
Ah, il y a deux groupes.
Ouais, il y a deux groupes. Il y a un groupe de la DH et DHR. Moi, j'ai été les voir deux matchs contre Castelnau et contre Beaucaire. Ça joue tout le temps un peu sur des petits détails, et c'est les petits détails qui font la différence. Et c'est dur aussi de vivre une saison comme ça.
Oui,
après deux montées de suite, de vivre une saison difficile, c'est dur à encaisser.
D'autant qu'ils ont eu l'occasion en plus, en fin de match, de revenir sur une action de. Je crois que c'est un coup franc de Momo à Dani. Mais qui a été détourné par le gardien.
Ok.
C'est vrai que c'est un compliqué.
Très compliqué. C'est vrai que Laurent me dit que s'il avait été là, ça aurait été Lucarne, mais bon.
Oui. Non, mais c'est une saison compliquée, même très compliquée, on le sait, aussi bien sur le terrain qu'en coulisses, avec le départ d'un des coachs. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres soucis que sur le terrain. Et donc, comme Nabil le disait, on sait que les matchs, ça se joue à des détails. Et donc, quand il n'est pas trop bien dans les têtes aussi, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent un peu autour, ça aide pas justement à faire basculer ces rencontres du bon côté. Et c'est actuellement ce qui se passe au niveau des blessés et puis des faits de jeu, et tu te retrouves dans une situation où je vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir.
Tu te retrouves à 5 points d'écart Montpellier Atlas, et si c'est les 3 derniers, c'est encore plus de points qu'il faudrait avoir.
On parlait de miracle pour le hand, le volley, mais là pour la réserve, là il va falloir un vrai miracle pour s'en sortir à la fin de saison. Voilà, les cartons rouges.
Parce qu'en plus, il va falloir faire monter des joueurs de ce.
Puis là, tu peux pas dire je vais renforcer la réserve alors que ta première est à la lutte pour monter un DH. Donc, tu pourras pas avoir aussi. On sait que dans les clubs, ça fonctionne comme ça. En fin de saison, si tu joues plus rien en première, tu mets les 3-4 meilleurs et boum, tu les balances en réserve et ça te change de suite toute l'équipe. Là, tu pourras pas le faire.
C'est votre faute, vous avez gagné aussi contre le leader invaincu.
Quelle idée, ouais. On va en parler de suite. Le match au sommet, la FL recevait le leader invaincu, Paulan Pézenas. La victoire, on le sait, elle était impérative. Et c'est chose faite, la FL gagne 2-0, but de Tessier et de Freitas. Alors vous me direz si je me trompe, mais Tessier de Freitas, ça sent le coup de boule en but.
Exact.
Non. C'est ça.
Allez. De Freitas, plat du pied.
Plat du pied. Ah, mais bravo.
Efficacité.
Alors à ce moment-là...
C'était un pied.
Bon, je le comprends, parce que Mika de Freitas, il marque que de la tête. Donc, oui. C'est un bon signe qui marque du pied.
Ouais, en même temps, sur une passe décisive de, rappelle-moi le but de Mickaël de Freitas.
Voilà,
c'est
la passe décisive de notre invité. D'ailleurs, le match a commencé à la 7e par une frappe de Tatar.
Le match il a commencé à la première minute, en fait.
Oui, mais voilà.
C'est gentil.
Oh là là, voilà. Toi qui étais sur le terrain, comment t'as ressenti ce match un peu 2-0 pour les gens qui n'ont pas vu le match? On peut se dire, 2-0, il n'y a rien à dire.
Franchement, on l'a bien préparé toute la semaine. On savait tout sur Paulan. On avait un plan de jeu, on l'a bien respecté et ça nous a souri. Donc on voulait rattraper notre défaite chez eux 4-0. Il fallait un peu d'orgueil et beaucoup de fierté. Et je pense que on a réussi à faire ça et ça a bien marché. Tant mieux pour nous. Maintenant, il reste 7 matchs et on va essayer de faire le boulot et à eux de faire un faux pas, voire deux.
Au moins deux faux pas.
Une défaite, un nul, et nous on gagne tout le match.
On va réexpliquer le classement. Parce que l'autre bonne nouvelle également, c'est que Narbonne gagne 2-0 contre Latte. Alors c'est une bonne nouvelle, je vais m'expliquer. Parce que Paulan Pézenas est premier avec 67 points. L'AFL deuxième, 59 points, un match en moins. Allez, si on compte une victoire, on rajoute 4 points, on arrive à 63, donc on n'est plus qu'à 4 points du leader. Et Narbonne reste dans le coup avec 58 points et un match en moins, sachant que Narbonne va recevoir Paulan Pézenas. Donc il faut absolument qu'il reste dans le coup pour tout donner lors de ce match. Patrick.
Tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, le coach Stéphane Sorin aurait aimé qu'il y ait plus d'équipes qui puissent encore se mêler à une, il y a eu moins, si on reprend les émissions d'il y a un mois et demi, il y avait 5, 6, 7 équipes qui étaient encore dans le coup. Bon, là, il y en a tout un tas qui ont quand même décroché. Comme la Grande Motte, ils ont décroché. Là, t'as décroché. Perpignan aussi a décroché. Donc, voilà, Aigues-Mortes, exactement. Donc, maintenant, on se retrouve à 3. Donc c'est bien, parce que c'est vrai que quand tu retrouves que deux, bon, il y a des équipes voilà qui laissent tomber, et donc c'est vrai qu'il faut intéresser le plus possible d'équipes pour cette montée. Donc c'est bien que Narbonne soit aussi toujours dans le coup. Ils ont le même nombre de matchs que Mende, donc un point derrière Mende. Donc c'est sûr que à la place de Narbonne, si nous à l'AFL on y croit, il est bien évident que Narbonne aussi il croit aussi. Donc ça c'est une bonne chose.
Et on en parlait en off avant l'émission avec Nabil. Il y a Argelès aussi qui doit recevoir Poland, qui va lutter certainement contre le maintien. Faut pas oublier les équipes qui
Argelès,
veulent pas descendre.
Argelès est largement pas sauvé, c'est clair. Donc Argelès fera tout pour accrocher Poland, ça c'est une évidence.
Nabil, vous y croyez, vous ?
Ah, c'est sûr. Sinon, on arrêterait maintenant le championnat. C'est sûr, on y croit. Après, on a parlé entre nous. Et voilà, il restait 10 matchs. On a dit, voilà, on part sur 10 matchs. Il faut faire 10 victoires. De faire un faux pas. Et tous les matchs, c'est des matchs de coupe pour nous.
Par contre, cette victoire, bon, ça a été super hier, c'est très bien, mais elle sera bonifiée que s'il y a une victoire ensuite au match de retard contre Aigues-Mortes.
Voilà, c'est dimanche.
Ce week-end. Sinon, ça tombe un peu à l'eau, quoi.
10 matchs, ça reste beaucoup et c'est peu à la fois.
Oui, là
il reste 7.
7 matchs, ouais, matchs c'est encore pire. Sachant que, donc Poland doit perdre et faire au moins un match nul. Bien que Poland.
Et se déplacer à Narbonne.
Doivent se déplacer à Narbonne, recevoir Argelès, ils sont pas au mieux
Il y a un point de règlement qu'il faut que tu précises aussi. En cas d'égalité avec les deux équipes, c'est Poland qui passera parce que c'est le golevrage particulier. Tu as perdu 4-0 au match aller, tu as gagné que 2-0 au match retour. Donc il faudra avoir un point de plus que Poland pour monter.
Voilà, sachant que l'AFL est meilleure attaque et troisième défense du championnat.
Et oui, mais bon, vu que on a perdu à l'extérieur 4-0 et qu'on gagne 2-0 à la maison, voilà,
tu peux gagner les matchs 10-0, c'est pas important. Et si tu gagnes tes 7 matchs 1-0, c'est bon. Et,
franchement, hier, on aurait pu leur mettre 4 parce que on avait des occasions pour. Mmh. On n'a pas réussi.
Ils ont eu aussi des occasions.
Nous, on était en difficulté sur Coupierreté.
Il y avait un gaucher extraordinaire là, qui mettait des ballons merdiques pour les défenseurs, quoi. Destin. Alors tous les ballons étaient rentrants, donc tu sais pas où c'est que ça peut arriver.
Avec le vent aussi.
Avec le vent, des fois des coups francs rentrants peuvent finir à lucarne. Et donc, sauf que bon, ça s'est bien goupillé. Et une tête de l'avant-centre adverse, Pouex, je crois qu'il s'appelle, qui est passé un poil, qui a fait frissonner tout le stade. On aurait pu prendre un but aussi, quoi. Donc, c'est sur le match aller de toute façon que
oui, c'est l'avérage.
On savait que c'était le match clé. Si tu fais des matchs nuls, encore plus si tu perdais. Bon, mais là, c'est bon. Tu étais en roue libre jusqu'à la fin de l'année. Bon, là, ça te remet dans le coup. Voilà, tu as grillé tous tes jokers, donc ça explique pourquoi tu avais 11 points de retard. Donc maintenant, donc tu reviens petit à petit, surtout si tu gagnes un dimanche. Et voilà, comme Nabil l'a dit, il faut maintenant quasiment faire un sans faute, gagner tous les matchs. Bon, tiens, un programme fait sur mesure, hein, puisque sur les 7 matchs, tu as fait 5 à la maison.
À l'extérieur, c'est où?
C'est la Grande Motte et Uzès, des matchs que tu peux aussi accrocher.
Qui sont pas gagnés non
donc,
plus.
Tout est possible.
Hein. La Grande Motte, tu peux perdre à la mi-temps et gagner à la fin du match, hein.
Tu peux perdre 3-0 à la mi-temps et gagner 5-3, non, ça.
Par contre, ça a été un bon dimanche pour l'équipe, mais il y a quand même deux gros points noirs en fin de match avec l'expulsion de deux joueurs. Peut-être que Nabil peut nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que nous sur le bord de terrain on n'a pas trop vu, surtout sur le carton de Florian Fedel.
Voilà, Florian Fedel et Camara qui ont été expulsés à la 90e et à la 92e.
Bah en fait, pour Souley, c'était une faute.
Un pied levé sur un joueur qui fait 1m50 adverse.
Voilà, il voulait dégager, il n'a pas vu arriver, il n'arrive pas derrière le joueur.
Au moment c'est où sévère. Moi, je trouve que c'est sévère, très sévère.
En fait, parce qu'il a vu le joueur saigner. Il s'est ouvert l'arcade, donc dès qu'il a vu ça, il a sorti le carton rouge. Et après, au moment où il y avait où ça parlait un peu pour le carton rouge, le premier. Après, il y avait coup franc pour Poland. Nous on met en place le mur et moi personnellement j'étais au marquage, donc après je sais pas ce qui s'est passé, et je pense que l'arbitre voulait faire reculer un peu le mur Flo, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je ne pense pas que ça soit méchant. Et l'arbitre, il s'est, entre guillemets, s'est excité. Il a, ouais, il a sorti le deuxième jaune quoi, pour Flo, alors qu'il a déjà un jaune.
Un arbitre qu'on connaissait, puisque tu l'as rappelé, on en a discuté avant l'émission, contre Carcassonne. Bon, il y avait un blessé de Carcassonne, bon, involontaire sur un contact. Il y avait eu les pompiers qui étaient venus. Donc, on avait déjà vu cette année cet arbitre en Inde, en particulier ce match de Carcassonne. Et pour reprendre le compte rendu que j'avais fait, et dans mon compte rendu, j'avais bien spécifié qu'on avait vu un arbitrage. Un peu tatillon, un peu des fois un peu olé olé, puisqu'il y avait même eu une réserve technique posée, donc bon voilà, il y avait tout un tas de trucs ce match là donc voilà, c'est un jeune arbitre et c'est vrai que des fois il est pas trop dans l'esprit.
Là c'est le cas pour Florian Fedel, puisqu'il est resté quand même 30 secondes, on a fait juste le 6 mètres après, et puis il a sifflé à la fin du match. Il y avait deux buts d'écart, il y avait aucun intérêt
mettre
un carton rouge là quoi,
surtout que Florian avait deux cartons jaunes avant, donc il risque de prendre au moins deux matchs de suspension.
Ouais, ça on espère.
Ah, c'est la commission.
Nabil, toi tu es une recrue cette année, tu viens de Jura Sud, on connaît bien sûr cette équipe pour ces parcours en Coupe de France. Ta vision toi de cette équipe et de ce championnat de DH Languedoc-Roussillon?
Bon, avant d'arriver, j'ai eu des échos sur le championnat, on m'a dit que c'était un championnat à relever. C'est le cas, il y a des très bonnes équipes. Après voilà, il y a beaucoup de duels, je m'attendais à plus de jeux, mais il y a beaucoup de duels.
C'est physique, ouais, c'est
pas physique. Franchement, c'est physique. Et après, voilà, si tu réponds pas présent dans les duels, là, c'est sûr, tu perds le match. Mais c'est un bon championnat, quand même. C'est un bon championnat.
Non, mais c'est vrai que tu parlais de la carrière de Nabil. Bon, des fois, on dit, ouais, un joueur, il joue à CFA1, CFA2, mais bon, le mec, il a joué deux matchs sur les trois dernières années. Alors que là, bon, il faut quand même préciser que Nabil et Florian, bon, ils étaient tous les deux à Jura Sud, mais des titulaires indiscutants. Donc, des gars qui faisaient 25, 30, 35 matchs par saison à ce niveau-là. Donc, des vrais recrues, des grosses recrues.
National, tu joues.
Bon, donc c'est vrai que c'est la question un peu que je veux lui poser, parce que bon, des fois dans les tribunes, bon, les gens, on le sait, les supporters, bon, ils croyaient que ben voilà, tu arrives de CFA, tu prends le ballon dans ta surface, tu vas dans l'autre surface et puis tu marques et voilà, etc. Donc est-ce qu'il a perçu cette pression, et est-ce que c'est compliqué à vivre, comment tu le savais attendu, ça tu le savais, mais comment tu vis un peu tout ça?
Après, chaque joueur a son style. Moi, mon style, c'est, ça n'a jamais été de prendre le ballon, de dribbler tout le monde, c'est plus le travail de l'ombre, la récupération, de relancer proprement le mieux possible. Et après voilà, moi mon but c'est plus défensif qu'offensif quoi, c'est
un relayeur entre la défense et l'attaque.
Voilà, donc c'est plus ça. Et après voilà, c'est vrai, si les supporters attendent de moi que j'aille dribbler tout le monde et tout ça, c'est ils peuvent attendre ça, c'est...
avec trois coups avec trois sombreros et
c'est pas mon
reprise de volée
c'est pas mon jeu du tout. Et en parlant de Flo aussi c'est un joueur très intelligent. Moi, ça fait deux ans que je joue avec lui. C'est vraiment un très bon joueur. Après aussi, il fallait un peu s'adapter aussi à la division.
Oui,
ça, c'est sûr. Voilà, c'est pas évident, de même si on arrive du dessus.
C'est plus facile le fait que vous soyez arrivés tous les deux en même temps avec Florian pour s'intégrer.
Moi, au début, je comptais rester. Au début, c'était prévu que je reste à Jura Sud. Après, on s'est mal entendu financièrement avec Jura Sud. Et après aussi, je voulais préparer mon avenir après foot. Donc, j'ai eu Flo pour savoir de mes nouvelles et tout. Je lui ai dit que je comptais plus rester à Jura Sud, je vais partir. On a parlé avec le coach. J'ai eu une discussion avec le coach, on a bien parlé. Il m'a expliqué son projet sportif et qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce qu'il voulait faire cette année. Le feeling est bien passé. Après, je suis venu ici, j'ai vu les dirigeants. Très bien passé. J'ai vu des gens passionnés, sincère et tout, donc ça s'est bien passé. Donc voilà, après j'ai pris la décision de venir ici et je regrette pas.
Les installations aussi sont bonnes, ça va?
Ah, c'est des installations d'un club qui n'a rien à faire en DH.
Voilà. Est-ce que tu as été surpris positivement ou négativement par la qualité de cette équipe de l'AFL en venant toi avec un regard extérieur?
Franchement, il y a un très très bon groupe. C'est pas langue de bois ou quoi que ce soit, mais franchement, c'est vraiment une très très belle équipe. En plus, voilà, c'est une équipe qui se connaît, ça fait un moment. Je trouve c'est bien aussi de pas trop changer l'équipe. Il y a tout le temps une ou deux, pas trop de recrues quoi, qui touchent l'équipe. Donc voilà, ça, franchement,
ça dépendra des départs aussi en fin de saison.
Oui, oui, ça dépend.
Pourquoi il y a des départs prévus ?
Non, mais si jamais il y en a, après tu es obligé de recruter X joueurs suivant le nombre de départs.
Au final, il n'y a quasiment pas eu de départ cette saison.
Non, cette année, non.
Cette année.
À
part Jimmy, ouais.
Et Ashraf, je crois.
Et Ashraf. Ouais. Par contre, le club a été intelligent de recruter des joueurs qui viennent du Jura, quoi. Pour venir jouer en Lozère, il faut prendre des joueurs qui ont connu le froid, déjà.
Si tu prends des joueurs de Cagnes-sur-Mer.
Si tu prends des joueurs de la Grande Motte, et il leur faut quelques mois d'adaptation.
Moi, je m'attendais à pire, pour le froid.
Non, mais c'est vrai que tout le monde attend cette accession en CFA2. C'est vrai qu'il y a tout, il y a les installations, il y a un public aussi. T'imagines, quand tu vois déjà les affluences en DH, bon, ne parlons pas de la Coupe de France. Imaginez si tu montes un CFA2, bon, on a connu ça il y a pas si longtemps, il y avait un public aussi fou quand j'étais un CFA2, donc il y a tout vraiment pour s'enflammer, pour créer, bon, la dynamique elle y est, mais vraiment encore donner un coup de boost, et puis bon, au niveau de l'équipe, tu as déjà des joueurs en place, donc après il te suffira bien sûr d'étoffer le groupe, et si tu montes, ça sera bien sûr indispensable. Il y a tout ici à Mende pour avoir un club en CFA2, ça c'est clair.
Ça serait une grosse déception de pas monter pour toi ?
Franchement, oui. Oui.
En plus, c'est rageant parce que j'en ai parlé avec Stéphane qui expliquait que les entraîneurs des autres équipes qui rencontraient Paulhan, après avoir rencontré Mende, leur disaient il y a quand même une classe d'écart entre cette équipe de Paulhan et l'AFL qui joue vraiment mieux. Mais bon, en attendant, on est derrière au classement.
Ouais, mais c'est sûr, si tu regardes, je pense que je n'ai pas regardé les résultats, mais si tu regardes Paulhan, ils ont quand même pas mal de matchs où ils gagnent 1-0.
Oui, mais c'est ça, on l'a dit régulièrement.
Un but d'écart,
mais ça suffit. C'est pas toi, le Montpellierain, qui va nous dire le contraire, mais le titre de Montpellier, ils l'ont acquis en ayant le plus de victoires 1-0 du championnat.
Oui, c'est vrai. Oui.
Après aussi, il ne faut pas oublier, nous, les 6 premiers mois, on avait beaucoup, beaucoup d'absences des joueurs offensifs, plus des joueurs offensifs, donc il ne restait que Alex et Fadil.
Et Fadil a joué blessé plein de matchs aussi, je me rappelle. Donc,
il avait des douleurs à la cuisse. Ouais.
Au début, Ibou n'était pas là encore, il est revenu en janvier. Ibra était blessé.
Le groupe n'était pas complet.
Alex Estomba aussi a été blessé pas mal. Ouais.
Alex aussi s'est blessé. Donc après voilà. Après bon, il y avait après il y a Nico Brunel qui s'est blessé. Flo était là, après s'est blessé.
Nicolas Andréo.
Voilà. Donc c'est le match de latte. Hein, notre première défaite. On sort avec 3 blessés et 1 rouge. Le match à 9. On avait du mal à l'encaisser, maintenant j'espère que Paulhan, ils vont mal encaisser leur première défaite aussi.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas toléré.
Il y a ça aussi, il faut voir comment Paulhan va digérer.
Comment tu vas réagir.
Comment va digérer tout ça, et notamment avec ce match contre Narbonne, qui peut aussi être un deuxième tournant du championnat.
Surtout si tu lui mets la pression, parce que Paulhan, dimanche, ne va pas jouer, donc toi tu vas jouer. Donc surtout si tu mets la pression et si tu gagnes, donc là tu reprends 4 points de plus. Là, ça peut, pour eux, leur match d'un 15 jours, ça peut vraiment leur mettre un coup de pression.
Ouais. On sait contre qui ils jouent dans 15 jours, Paulhan ? Non, je ne sais pas.
Bagnol,
je crois. Bagnol.
Ah, Bagnol, qui est pas mal.
Bagnol, qui est... Ouais.
Quatrième.
Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Bagnol.
Ok, parfait.
Paulhan qui peut donc finir troisième, alors à vous écouter.
Même quatrième.
Bah oui.
Limite relégable. Franchement, moi.
Ouais, non, quand même pas, mais bon. On va suivre ça, oui, on va espérer, que l'AFL soit champion. Ouais, Nabil.
Franchement, je lance ça aussi un appel à tous les supporters pour ce week-end. On aura besoin d'eux, même pour les 5 matchs qui nous restent à la maison. On a besoin d'eux, et comme c'était ce week-end, il y avait beaucoup de monde, donc c'est bien.
Oui, c'est important.
Ouais, parce que c'était un match qui était prévu le 1er mai, vendredi 1er mai, et donc finalement qui a été avancé à ce dimanche.
Pourquoi ?
Pour permettre d'avoir un peu plus de lisibilité aussi pour le championnat.
Parce qu'en fait aussi, il y avait ce problème de sélection, là, parce qu'en ce moment, il y a la Coupe UEFA des régions, et donc il n'y a aucun match qui joue ce week-end, parce qu'il y avait des joueurs qui devaient partir justement jouer avec la sélection du Languedoc-Roussillon, tu joues contre la Méditerranée, contre la Normandie, etc.
Oui, oui.
Et donc bon, finalement, ça a pu bien se goupiller, donc Mende peut jouer ce dimanche, c'est pour ça que... en première instance, c'était fixé au 1er mai.
Il y a des joueurs de l'AFL qui sont qui y vont ou pas ?
On ne sait pas.
On sait que Fadil, chaque année, il y est quasiment.
Ils vont mieux pas, parce que sinon...
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Mais il peut refuser. Tu peux refuser.
Tu peux pas refuser, mais bon, si le match a été fixé à ce week-end, ça m'étonnerait qu'il y ait des joueurs qui partent.
Nous, on n'a aucune nouvelle.
D'accord. Sur ça. Sinon, on envoie Laurent. Hein.
Je pense, je pense que la. Je pense
des représentants de la FL.
On fait croire que c'est Fadi.
Je pense que le premier match de la sélection. Je pense que la sélection a dû faire le choix de pas sélectionner les joueurs de Mende.
Ouais, ouais.
Bah, ça serait bien.
Et ça permet aussi de.
À part s'ils veulent aider Paulin.
Ouais, mais on y pense même pas. Mais je crois que quand même, suivant le nombre de joueurs que tu as sélectionné, tu peux demander à ce que ton match soit remis.
Mais bon, justement, je pense que le coach et les dirigeants.
Ouais, voilà, je pense qu'il y a dû avoir des contacts entre les dirigeants et la sélection pour dire ben, vous prenez pas des joueurs de Mende, comme ça on peut jouer notre match en retard le dimanche.
C'est bien aussi pour vous, ça vous permet de continuer dans cette dynamique-là, de rattraper.
Ah ouais, ça c'est. On le sait, nous, voilà, maintenant on prend chaque match comme un match de coupe. Donc sans se mettre beaucoup de pression, la bonne pression, voilà, pression positive pour. Voilà, bien réussir le match et comme on l'a fait ce week-end.
Parce que si tu avais joué le 1er mai, tu rejoues aussi le dimanche. Ouais. Parce que tu as une journée 3 mai.
Ah ouais.
Donc ça fait deux matchs. Ça,
le 3 mai, on joue contre Uzès, je crois.
Ouais. Ouais, Uzès, on gagne. Ouais, il paraît qu'ils ont envoyé la vidéo du coup, Franck, de Laurent à la sélection. Ouais. Regardez le joueur qu'on a, il est énorme. Énorme. Ah. Allez, merci beaucoup Nabil, reste avec nous. On va parler de foot encore avec cette actualité nationale et cette info qui est sortie ce matin concernant le report du match de Saint-Étienne Paris qui va faire plaisir à Luc. On va écouter une courte chanson car il est déjà 1h15. Allez, un petit Jimi Hendrix et on revient de suite après. Allez, on est de retour. Personne ne me prévient que la chanson est terminée. Laurent mange. Ça y est, c'est la fête. Hein, tu veux nous dire un mot, Laurent? Vas-y.
Oui, je voulais dire un mot.
Fais-nous rêver.
Merci à Nabil d'avoir amené des très bons gâteaux.
Oui. Ah oui, magique. Hein.
Très bonne initiative.
Ouais. On l'invitera plus souvent. Hein.
Ouais. C'est vrai que
j'ai un petit crumble aux pommes, là, je vous garantis.
Bon, c'était prévu quand tu m'as invité. Donc. Ouais.
Allez, on va parler de l'actualité nationale et également internationale. Alors, on va revenir. Avant de revenir sur les deux matchs amicaux de l'équipe de France, de faire un pronostic également sur le Classico et d'en parler de ce week-end. Donc, c'est tombé ce matin.
Tu as vu que Bielsa se met au rugby, mais.
Oui.
Donc, ouais. Paris est mort.
Et Zlatan aussi.
Ah, c'est fini.
Oui. Zlatan était en match aussi.
Boudjela, il a fait un petit clin d'œil.
Ouais, on a vu ça. Bon, on pourra en parler aussi.
Paraît que Bielsa serait parmi la shortlist pour remplacer Philippe Saint-André.
Alors, en rapport avec la Ligue des Champions, selon le PV de la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, les Verts n'ont pas souhaité accéder à la demande du PSG de reporter la date de la finale
c'est normal.
De Coupe de France.
C'est normal.
Donc voilà, coupe la Fédération qui explique... Coupe de France. Tu arrêtes, Laurent. Donc la FFF qui explique en gros, ben non, nous on était d'accord, c'est Saint-Etienne qui a pas voulu. Alors, mauvais joueur ou pas, Nabil? Saint-Etienne.
En tant que supporter parisien, je veux dire un mauvais joueur, mais dans le fond, à la place de Saint-Etienne, il faut les comprendre. Hein.
Voilà,
il a tout résumé.
On a vu ce grand entraîneur du grand club de Montpellier, Roland Courbis, pour Monaco, qui a dit, ben oui, bien sûr,
mais tu peux pas comparer un simple match de championnat alors que tu sais que tu n'as plus rien à jouer.
Comment ça,
c'est le cas de Montpellier, avec une demi-finale de Coupe de France.
Ils ont encore des objectifs, Montpellier. À l'époque, ils étaient encore...
UEFA.
Ils avaient encore une place à...
Avec l'OM en UEFA, ça sera très bien.
Les 5 premiers ou les 4 premiers, c'est rêvé, quoi.
Ouais, je pense aussi. Toi, tu trouves que c'est normal?
C'est normal.
Ah, après, c'est pas beau.
Ça fait chier Paris, mais attends.
Paris, tiens un salaire, rien que le salaire de Ibrahimovic, il paye les 3/4 de l'équipe de Saint-Etienne. Alors, tiens une chance, justement, de leur mettre la pression et de se dire, bon, ils vont mettre des mecs au repos parce qu'ils ont pris la Coupe de la Ligue, ils ont mis, et tu vas pas encore plus leur faire ce cadeau-là de changer le match. Alors, après, tu peux parler d'éthique, tout ça, de déontologie, mais bon, après, le calendrier est comme ça, le match, il était prévu à telle date, c'est normal que tu dises non, quoi. Non, enfin, à mon avis, quand tu es dirigeant, c'est normal.
Moi, c'est pas une question d'éthique. Alors, déjà, je trouve un peu limite parce que Saint-Etienne avait dit non, c'est pas notre faute, nous on a rien dit.
Ça c'est pas beau.
Ça c'est pas très beau.
D'accord.
Voilà, on est d'accord. Après, moi ça me pose quand même un problème, c'est très français finalement, ça. C'est que chacun regarde son coin, son truc, il sera peut-être bien content Saint-Etienne l'année prochaine s'il y a une place de plus en Ligue des Champions grâce au bon parcours de Paris et de Monaco, d'en bénéficier. Je trouve que les clubs français en règle générale se regardent un petit peu le nombril et pensent pas trop au foot français dans sa globalité. Mais bon, après il n'y a pas mort d'homme, hein. Effectivement, c'est quand même la Ligue et la Fédé qui, à la base, n'imaginent pas que deux clubs français peuvent être en quart de finale de Ligue des Champions. C'est un peu plus embêtant.
C'était pas gagné. Hein.
Non, mais bon, tes arguments, on peut les entendre, mais après, il faut se mettre à la place des clubs. Tu diriges un club, tu es Saint-Etienne, tu fais une saison honorable, mais bon, tu as une chance inespérée de faire une finale de Coupe de France. Je crois que ça fait 30 ans qu'ils ont pas gagné la Coupe de France. Tu sais que l'autre demi-finale, c'est deux clubs largement à ta portée, donc quasiment, si tu passes Paris, tu as presque la Coupe de France entre les mains. Puisque je crois que c'est Auxerre contre.
Est-ce que c'est beau de qualifier Est-ce que c'est beau d'arriver en finale en tout cas
Même l'équipe Umbis de Paris, elle est pas mal. Même l'équipe Umbis de Paris, elle sera pas mal. Donc tu mettras quoi, Duchesse dans les buts à la place de Sirigu. Après tu vas mettre quoi, Hébert qui pourrait jouer dans n'importe quel club, Rabiot, etc.
Aussi Camara.
Quand tu joues avec Morel, Camara, tu n'en parles pas. D'accord. Mais vous
tu auras quoi, Digne? Tu auras Lucas Digne. C'est quand même un international français.
C'est pas
des équipes à moi quand même.
Ouais, moi je trouve par exemple la différence, c'est que l'Angleterre protège vachement ses
joueurs. Ils ont zéro club qualifié.
Ah, ils ont tellement protégé que.
Ça a toujours été le cas. Après, faut pas tomber non plus de le côté dans l'autre côté où on protège à outrance les gros clubs. On est d'accord.
Ok, on revient vite fait sur les deux derniers matchs amicaux de l'équipe de France. Défaite contre le Brésil 3-1, victoire contre le Danemark 2-0. Analyse de ces deux matchs, Patrick.
Le Danemark n'est pas le Brésil.
Voilà.
Voilà, donc c'est déjà un bon départ. Le Brésil, surprenant. Moi, j'ai trouvé une équipe vraiment très bien en place avec des joueurs qui m'ont vraiment surpris. Des joueurs méconnus, c'est vrai. Et puis Neymar qui est vraiment fabuleux. Bon, c'est vrai que je le vois un peu jouer de temps en temps avec Barcelone, mais bon, c'est vrai que là, il m'a encore plus surpris que d'habitude. Et j'ai vraiment trouvé un joueur hors norme. Et vraiment, quand tu vois qu'à une époque, il était comparé avec Lucas, celui qui joue à Paris, là, tu vois que c'est absolument plus le même niveau de performance des deux, quoi. Et bon, après le Danemark, tu peux pas comparer, quoi. Voilà. Enfin, le Danemark, c'est une équipe très moyenne. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils auraient pu en prendre 3 ou 4 de plus.
Ouais, ils sont quand même premiers. De
ouais, d'accord. Mais bon, c'est pas le top.
Dans leur poule, ils sont premiers. Ils sont plus premiers
puisque le Portugal a gagné contre la Serbie. Donc c'est le Portugal qui est premier. Mais bon, ils sont à 2 points. Mais tu peux pas comparer les deux équipes. Les deux matchs, tu peux pas les comparer.
Non, techniquement, il y a quand même une classe d'écart entre le Brésil et le Danemark.
Ouais, il te manquait aussi ton milieu de terrain, presque un type comme Pogba, voire Cabaye, que j'aime pas spécialement. Mais bon, c'est important dans le jeu. T'as vu les matchs, toi, Nabil, ou pas?
Oui, j'ai regardé les matchs, les deux. Ça montre que la France a encore du travail à faire pour arriver dans les 4 meilleurs, pays. Quoi. Ouais. Parce que le Brésil, ils sont arrivés en demi-finale, donc la France est arrêtée en quart. Mm. Il y a du travail, mais j'ai confiance moi pour l'Euro, franchement, parce qu'il y a
Bons jeunes, il y a une belle ossature.
Une belle génération, et il y a aussi un bon France, coach aussi qui tient. Donc, surtout, c'est en France. Donc.
Oui.
Il y a quand même un truc qui m'a scandalisé, c'est les sifflets du Parc et ceux de Geoffroy Guichard. Les sifflets du Parc pour Fekir du Stade de France pardon.
Ouais. Oui non c'est
ah oui ouais, c'est vrai.
Les sifflets du Stade de France pour Fekir accueillir un joueur qui fait sa première sélection par des sifflets, moi je trouve ça scandaleux.
Et c'était pourquoi en fait? Parce que quand un Geoffroy Guichard, un petit peu à comprendre même si c'était pas intelligent.
Ouais.
Mais à Paris pourquoi?
Son hésitation, certainement. Entre l'équipe de l'Algérie et l'équipe de France, bon, c'est sûr que c'est normal de se poser la question. Hein. Bon, tes parents sont en Algérie, bon, même si toi tu es né en France, tu as la pression de la famille, tu as le choix de ta carrière, le choix du pays où tu as grandi. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. On peut comprendre qu'il y ait une hésitation.
Il faut pas oublier qu'il a 20 ans, quoi.
C'est
un mec de 20 ans.
Il a une hésitation, mais il a mal géré le truc.
De toute façon, là que c'était des matchs amicaux, il peut encore changer. Il a été accueilli, à mon avis, il va se poser la question.
Et lui, il a toujours dit qu'il ne changerait pas d'avis.
Mais de la siffler, c'est complètement idiot. On est d'accord.
Enfin, pareil pour Lacazette qui a été hué par le public de Geoffroy Guichard.
Non, mais qui a été intelligent quand il a marqué son but de pas rajouter des caisses.
Ouais, il faut dire que Lacazette aussi, il avait un peu cherché parce que il y a quelques années, il avait entonné un chant contre Saint-Étienne qui était assez outrancier et assez injurieux. Donc c'est normal aussi que parfois tu aies un peu le retour de ce que tu sais. Donc ouais, moi la Lacazette ça me
semble. Tu l'aurais sifflé toi.
Non, je l'aurais pas sifflé.
Jallet a été sifflé.
Mais c'était surtout sur Lacazette parce que je pense qu'il y avait cette histoire que les supporters ont un peu oublié. D'ailleurs Lacazette, je crois qu'il avait été suspendu ou un rappel à l'ordre par la commission d'éthique. Ouais, c'était normal aussi.
Donc le supporter stéphanois a de la mémoire.
Non mais ceci dit c'était stéphanois, ça a été pareil pour Digne quand il a joué avec l'équipe de France au Vélodrome.
C'est la juridiction de Taïwan.
Digne, il a été sifflé au stade Vélodrome.
Quand il
avait joué à l'équipe de France, oui, bien sûr.
Après, c'est complètement stupide, tu joues pour l'équipe de France,
tu vas faire venir.
Et j'ai pas souvenir, mais je pense que les premières sélections de Valbuena, quand il était marseillais au Stade de France, c'était pareil. C'est juste qu'à un moment, il faut peut-être mettre un peu.
Non, c'est ridicule, c'est ridicule.
Ça devient ridicule.
Allez, avant de parler de Classico, de faire les pronostics, Patrick, as-tu écouté l'émission la semaine dernière? Non, tu étais en plein travail.
J'ai pas écouté, non.
Parce qu'il s'est passé un événement extraordinaire la semaine dernière.
Planétaire.
On m'a même appelé pour que je le repasse dans cette émission. Alors, vu qu'on va parler des pronostics, je vais passer juste le début parce que c'est quand même extraordinaire. Il faut que tu écoutes ça, Patrick. Écoute bien. Ok, alors, mon cher Laurent.
Oui.
Chelsea qui reçoit Paris, ça donne quoi?
Je vais dire que ça va faire un 2-2. Je vois bien Paris se qualifier.
Il est fort, il a réussi à trouver un pari.
Il est fort, il est fort.
Hein, le 2-2.
Depuis, il roule en Ferrari.
PMU tous les week-ends.
On devait le repasser. Il a perdu 400 euros en pariant depuis. Allez, avant de parler du match, ça va être simple. On va faire les pronostics. On commence par. On va laisser Nabil à la fin.
Pronostic de quel match?
À ton avis,
PSG, OM.
Marseille-PSG.
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 Marseille-PSG. Écoute, là, comment te dire, là, en ce moment.
Est-ce que les buts, alors, il faut que tu poses une question, est-ce que les est-ce ballons que les qui franchissent rentrés, la ligne sont recomptabilisés ou pas, cette fois?
Ça dépend, de Patrick, quoi. Ça dépend si on met un coup de crampon dans la tête du gardien.
Ouais, ça dépend. On a déjà eu cette semaine, on a déjà eu le débat la semaine dernière, t'avais
quelqu'un qui Patrick. C'est pour ça. Ça m'a scandalisé.
Le ballon va rentrer au moins deux fois dans le but parisien.
Mais il n'y aura qu'un but accordé, c'est ça?
Non, on veut le résultat définitif.
Allez, 2-1 pour l'OM.
2-1 pour l'OM. Luc,
2-1 pour Paris.
C'est à Marseille, on rappelle. Oui. Patrick.
Alors, ça me fait penser à ce match inoubliable juste après la victoire en Coupe d'Europe avec cette tête de Basile Boli qui était en dehors des 18 mètres. 3-1, donc il y aura encore 3-1.
3-1 pour l'OM.
Ouais. Et un but de Boxic.
Ouais. Il joue plus, il sera pas Boxic.
Arrêtez, sera pas. Stop, Nabil.
Il est parisien. Voilà.
2-0 Paris. Allez, mais moi je vais dire.
C'est pas évident.
Tu dis 2-0 Paris. Paris
allez, tu es prêt à mettre de l'argent sur ce résultat ou pas?
Allez, moi je dis. Quelqu'un dit 2-1 pour Paris?
Oui, moi.
Toi, d'accord.
Ah, alors, tu as eu 2-1 pour Marseille.
3-1 Paris. Allez, bim. Allez,
l'inverse de moi, bon, tu as perdu.
Au revoir, le titre de champion pour Paris-Marseille. Allez, dernière info, Zizou a annoncé, a confirmé son ambition de devenir sélectionneur. Votre avis sur cette information?
Normal, mais bon, il faut quand même qu'il se lance un peu dans le grand bain, hein, parce que là, bon, depuis le début, on dit Zidane, mais entraîneur de la réserve du Real de Madrid dans le 3e division espagnole. Il faut qu'il se lance, là, quand même. Lance-toi d'abord dans un club. Et pourquoi pas à Marseille, tiens?
On parle visiblement beaucoup de lui pour. Ça se passe pas très très bien avec Ancelotti, visiblement, à Madrid. Et on parle de lui si Ancelotti était amené à partir pour le remplacer à la tête du Real.
Voilà, bon, mais il fait un an ou deux au Real et puis après il prend l'équipe de France, normal, logique,
ouais, logique,
sans problème.
Ouais.
Bon, il faut qu'il se fasse la main quand même d'abord avant de prendre l'équipe de France.
Il a le temps.
Hein. Non, mais c'est bien, on est tous d'accord.
Plus Deschamps, il a prolongé.
Oui,
je pense que peut-être après la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, pourquoi pas.
Celle au Qatar, comme il est un peu impliqué.
C'est celle-là, parce que tu commences d'abord par la Russie. Donc,
c'est la Russie la prochaine. Ah, c'est ça, t'as raison.
Ouais. 2022, tu as raison.
Ok, merci les gars. Merci beaucoup, Nabil, de t'être déplacé. On va suivre, bien sûr, vos matchs. On rappelle dimanche, c'est à quelle heure?
À 15h.
À 15h, match en retard à Delmas. Il faut que vous soyez nombreux pour soutenir la FL qui en a besoin et pour revenir à 4 points de cette équipe de Paulin et espérer monter.
Il y a un petit coucou aussi aux blessés, Benjamin Admeras qui s'est fait mal au genou. On espère que ce n'est pas très grave. Et aussi à Flo Baudin qui s'est fait mal vendredi. Bon rétablissement à eux deux.
Ok, c'est sympa ça, Nabil. Ciao Laurent.
Salut tout le monde.
Tu nous rappelles un but en lucarne, 35 mètres, coup franc, c'est ça?
Ah, c'est ça. C'était là, Lulu. Plus dernier, au Mans.
Ici c'est au Mans.
Ici c'est au Mans.
Allez, ciao Luc, ciao Patrick, ciao tout le monde.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Les Slick John au couloir en numéro 2. Allez, les Slick. C'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquez. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez, Louis. Allez.